Jacques Mercier, on ne cesse de vous redécouvrir, non seulement parce que vous dévoilez des souvenirs, mais aussi parce que vous les jouez. Une des premières caractéristiques de Mercier Go Home, c'est que c'est une comédie hilarante, où, en tout cas à la première, toute la salle riait de la partie absurde que le duo Philippe Geluck-Jacques Mercier parvenait à insuffler dans l'évocation de souvenirs.
Oui, évidemment, dans la masse de souvenirs que j'ai pu accumuler en 45 ans, j'ai choisi ceux qui étaient drôles, ceux qui et aussi dans l'autodérision. Donc, j'ai choisi, c'est un parti pris que j'ai pris, un parti pris de voir le côté raté, au fond, le côté nul des choses. Non pas parce que c'est ce qui est le plus évident dans ce que j'ai fait, j'espère que non, mais parce que ça permet probablement au public de se retrouver dans des situations un peu semblables dans la vie. Et le message est, vous me connaissez peut-être en radio, en télé ou ailleurs, mais on est comme tout le monde, on n'y arrive pas comme ça, tout n'est pas... Enfin, il y a aussi des choses qu'on rate, peut-être même plus, mais... La leçon qu'on doit en retirer, et après 45 ans de métier, c'est qu'il faut en rire et il faut aller au-delà de ça. Il faut passer outre. Et donc, si ça peut en faire un spectacle, alors que jusqu'à présent, je le racontais surtout à des amis, eh bien tant mieux, je le partage avec le public.
On pourrait dire que vous avez vécu une véritable tragédie pendant toute votre existence, c'est celle de ne jamais avoir su dire non.
Mais ça, c'est vrai, effectivement. Donc, c'est effectivement le fil rouge de ma vie. Alors, c'est que, n'étant pas sûr de moi, n'étant pas sûr ni de moi, de mes capacités, mais non plus de ce que je suis, de ce que je représente, de ce que je peux faire, j'ai d'abord choisi un métier d'intermédiaire. Donc pour ça, de journaliste, le journaliste n'est pas nécessairement au courant de tout, il est curieux et il demande aux autres et il transmet. Donc ce métier-là permet de ne pas faire, de pas montrer sa culture ou pas devoir assumer ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Donc c'est déjà une façon de fuir. Et puis, comme je n'étais pas sûr de moi, mais dans aucun domaine, ni physique avec les filles, ni etc., etc., j'ai donc eu tendance à me faire discret et accepter pour me faire bien voir, pour me faire aimer des autres. Et donc je ne disais pas non, ce qui m'entraînait, on se doute, dans des situations que je décris.
Je vais en citer une, mais on ne va pas développer parce qu'il faut vraiment que le public aille voir. Mais il faut quand même imaginer que vous êtes devenu un jour dans votre vie rabatteur de fauves dans la savane sénégalaise pour un groupe de chasseurs français. Alors il faut aller voir le spectacle pour se rendre compte de ce à quoi vous exposez en n'étant pas capable de dire non. J'aimerais qu'on revienne sur la pièce de théâtre en soi. Vous êtes en duo avec Philippe Geluck pour cette première semaine de spectacle. Comment s'est écrit cette pièce? Comment s'est fait le travail de mise au point de la pièce?
D'abord, j'ai écrit un certain nombre d'anecdotes. J'ai essayé de les grouper. Je les ai proposées à Nathalie Huffner, qui en a dit on va en faire un spectacle, etc. On a déjà fait un premier tri. Et puis, une fois que les partenaires avaient donné leur accord, ce qui s'est fait tout de suite d'ailleurs pour tout le monde, chacun a pris connaissance de ça en disant ça j'aime bien, ça j'aime moins, etc. Donc on a de plus en plus diminué. Puis Philippe lui-même a testé avec moi un certain nombre de choses en disant pourquoi tu ne racontes pas celle-là, pourquoi tu fais ça. Donc il y a eu un tamisage, c'est passé par des sas successifs dont l'avant-dernier était la mise en scène de Nathalie Huffner. Donc pour elle, j'ai aussi dû raconter l'histoire telle que j'allais la raconter sur scène, ce qui est très difficile parce que au fond, j'improvisais toujours ces histoires, je les rallongeais, je prenais dans des apartés, j'ai beaucoup de mal à aller à l'essentiel. Ce qui fait qu'elle me disait, donc j'ai dû passer une sorte d'examen, tu coupes tout le début, tu arrives plus vite là, tu fais ça, tu attends avant de donner ta chute, etc. Donc j'ai appris au fond quand même à être un peu comédien, ou en tout cas à rendre les choses sur scène, audible sur scène et compréhensible et efficace sur scène. Et puis le dernier, ça a été la durée. C'est-à-dire qu'on ne savait pas encore combien de temps ça durait. On a ajouté donc à mes anecdotes des enchaînements que Philippe a imaginés et que chaque partenaire est occupé d'imaginer. Et donc on a tout mis ça ensemble et on est tombé pratiquement au temps. On a coupé 2 ou 3 grosses anecdotes et on est arrivé au temps.
Alors ce qui est très particulier dans cette pièce, c'est que lorsqu'elle débute, vous êtes très très âgé, vous êtes dans une maison de retraite à Wépion. Et on découvrira pourquoi Wépion et pas Esch-sur-Alzette. Il y a une signification. Et en fait, on découvre au fur et à mesure où la pièce se développe que vous devenez de plus en plus comédien, comme si c'était au fur et à mesure de la pièce que vous entriez vraiment dans votre rôle et que vous relâchiez la personne Jacques Mercier médiateur pour devenir un Jacques Mercier, un personnage.
C'est intéressant d'observer ça, c'est pas nécessairement volontaire, mais comme on joue le jeu de la vérité avec cette pièce, évidemment, on sait, mais on ne peut pas casser cette convention au début, on sait bien entendu que c'est une pièce, on sait que c'est pas un vrai home, on sait que je suis toujours dans la vie, pas dans un home, on le représente, on l'imagine, je suis vieux, et je me laisse guider presque physiquement par Philippe qui vient me rendre visite. Mais au fur et à mesure des histoires ou de l'évocation de ce que je suis, je redeviens vivant et effectivement je redonne les choses. Et j'avoue que ça s'est fait récemment, je me suis senti de plus en plus à l'aise sur les planches. Mais c'est une découverte, non seulement pour moi parce que je suis le premier étonné, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a un passage, on peut dire, il y a un passage où je fais semblant de boire à nouveau.
Oui, Philippe Geluck vous fait reboire de la poire Williams qui vous rend complètement désinhibé.
Mais personne n'a imaginé, moi non plus, que j'allais improviser pendant quelques minutes quelqu'un d'ivre, à nouveau d'ivre, qui retrouve l'ivresse, qui déconne, qui crie, qui chante, qui danse, etc. Et c'est en faisant ça pour rire, lors d'une répétition, que tout le monde a dit, les personnes qui étaient là ont dit, mais tu dois absolument faire ça, tu dois garder, mais tu es comédien. Et donc voilà, peut-être, mais comédien toujours, entendons-nous, dans des choses que j'ai vécues ou que je connais.
Quoique, votre interprétation de Johnny Hallyday, qui vous rencontre la première fois lors d'une interview, quand même, vous voir taper sur la table et prendre la voix de Johnny Hallyday, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu.
Ben, je suis content que vous aimiez ça. Je ne me rends pas compte. Hein. On est après la première. Je ne sais pas du tout. Tant mieux. Les histoires des accents. Alors, on sait que je suis nul en langue anglaise ou flamande et que je n'ai pas le don des langues du tout. Mais je sais aussi que je n'ai pas le don des accents. Et donc, quand Nathalie m'a dit, pour une des premières anecdotes, ma secrétaire me dit quelque chose. Je vais essayer. Tu n'as pas de place de parking à la RTB. Elle me dit, mais tu est-ce qu'elle était de quelque part, cette secrétaire? Je dis d'Ouarem. Et donc elle me dit, prends l'accent d'Ouarem, comme si j'étais censé connaître les accents et pouvoir les prendre. Et à partir de là, tout le monde a trouvé ça drôle en disant, mais quand tu racontes, tu dois te mettre aussi à la place de la personne dont tu racontes l'anecdote. Et ça, c'est tout nouveau, parce que je ne l'ai jamais fait avant d'être sur une scène. Donc, je découvre, en réalité, ce monde. Alors, déjà, il y a 48 heures que ça existe. Je prends un plaisir à faire ça, à découvrir ça, et à écouter ce qu'on en dit là, à l'instant, par exemple. Ça m'ouvre comme ça des portes que j'imaginais pas. C'est une nouvelle vie pour moi. Un nouveau bonheur qui est peut-être plus fort que tous ceux que j'ai vécu avant. Parce qu'évidemment aussi, avec l'âge et avec le manque d'enjeux, parce qu'on va pas dire que c'est maintenant que je vais faire une carrière, j'ai beaucoup plus de bonheur à le faire. Et si je prends beaucoup plus de bonheur à le faire sans trac, sans rien, je pense que ça se ressentira aussi dans la salle.
Pour citer quelques scènes, mais sans entrer dans les détails, vous dansez un slow avec Philippe Geluck sur une musique de Night in White Satin, si je me souviens bien. Vous draguez Philippe Geluck, mais qui joue le rôle d'une femme, dans une chambre d'hôtel. Et puis alors, il y a une scène que tous les urologues vont apprécier au plus haut point, qui est, il suffit de dire que c'est une scène que les urologues, oui, et pas les neurologues, vont apprécier. Pour imaginer ce que ça peut être. La pièce que vous jouez maintenant avec Philippe Geluck va se dérouler avec différents partenaires, avec Kroll, avec Laurence Bibeau, avec Jean-Luc Fonck. Comment est-ce que vous imaginez aujourd'hui, après avoir vécu cette première avec Geluck, la manière dont vont se dérouler les prochaines?
Je pense qu'on va essayer, dans la mesure du possible, de garder le fil conducteur et l'ordre de ce que je raconte. Moi, des anecdotes, là. Il y en aura d'autres, il y en a qu'on va retirer parce qu'elles ne collent qu'avec Philippe, mais on parle de la scène, d'une scène de séduction sur un lit avec Philippe qui se met à la place d'une femme. Bon, on peut évidemment imaginer que tout le monde ne va pas faire ça, mais je pourrais probablement raconter l'histoire sans la vivre à ce moment-là, sans la jouer. Donc on va essayer de garder le fil conducteur et je sais plus ou moins, pour le moment, plus ou moins, comment chacun va aborder ce qui est entre deux. Et je me réjouis déjà de la différence, parce que je ne sais pas si pendant 6 semaines, on peut garder cette complicité, cette fraîcheur que j'ai avec Philippe maintenant, probablement, mais j'en sais rien. Tandis que là, je suis sûr que je vais renouveler mes histoires et que ce sera encore pour moi un grand plaisir. Donc, par exemple, Laurence Bibeau, imagine plutôt, c'est plus hôpital, home, et elle sera en infirmière. Elle est comédienne, donc elle jouera très bien l'infirmière. Elle sait que, comme pour la plupart des hommes, j'ai aussi quelque part un fantasme des uniformes et des infirmières, surtout à l'époque, moi, que j'ai connue avec le nylon plus ou moins transparent.
C'est l'époque où vous aviez une moumoute.
Aussi, oui.
Voilà. Ce qu'on va découvrir, d'ailleurs.
Voilà, bien sûr. Et donc, elle, je sais que ses invités, elle veut les faire venir, soit médecin, je crois qu'elle veut faire venir un vrai psy de sexualité pour m'analyser après une anecdote, en me faisant lui raconter une anecdote de fille que j'avais. Elle veut faire venir un travesti célèbre de la place de Bruxelles, maman, en infirmière en chef, m'engueulant parce que je lutine les infirmières, etc. Donc, je pense que ce sera autre chose, mais pas tout autre chose. C'est évidemment toujours mes anecdotes, d'autodérision, mais dans un contexte différent. Et c'est intéressant de voir l'évolution. Jean-Luc Fonck va jouer très grand public, peut-être aller dans le public, chanter, évidemment. Il va m'apporter, par exemple, un panier à provisions avec ce que je lui ai commandé par téléphone, avec des trucs que je vais découvrir moi-même, dont il va donc développer l'idée. Juan d'Outremont, lui, va faire ce qu'il faisait sur antenne avec moi, c'est-à-dire, et avec tout le monde, il va démonter l'histoire. Il va dire, écoute, je suis venu voir ta pièce, jusque-là, ça va pas. Ça va pas. Tu vois, il faut plus de cul, il faut plus de ça. Et il va essayer de me démontrer ça avec le texte en main. Et Kroll, lui, va jouer sur ce qu'il est, c'est-à-dire il va dessiner pendant que je raconte, il va essayer de me caricaturer, il va aussi commenter l'actualité. Donc lui, il va m'apporter les journaux et il va me les commenter puisque je suis très vieux et ça va donner autre chose encore en disant, mais oui, mais par exemple, le roi s'achète un yacht, mais toi, tu as bien connu le roi Baudouin ou le roi Albert, et on va partir sur des anecdotes qui ne sont d'ailleurs pas dans cette première série.
Oui, on découvrira d'ailleurs dans la pièce pourquoi le roi Baudouin avait l'habitude de tenir ses mains derrière le dos. Et donc là, on invite la famille royale à venir visiter, à venir voir votre pièce. Alors, un autre visiteur célèbre, je dirais même célébrissime, que l'on attend dans les prochains jours, c'est Leonardo DiCaprio, parce qu'il s'est laissé dire que vous vouliez interpréter son rôle. Et c'est une des scènes les plus spectaculaires. Le Titanic sur la scène du théâtre de la Toison d'Or, dans une mise en scène de Philippe Geluck que l'on voit sur scène, donc on voit un décor se construire, celui de la crew du Titanic et vous y jouez Leonardo DiCaprio. Je pense que c'est sur ce dernier dévoilement d'un des secrets de la pièce que l'on peut interrompre ici cette interview, pour laquelle je vous remercie, Jacques Mercier.
Merci beaucoup.